Aujourd'hui, nous allons voir Dieu est juste, c'est le titre de la séance. J'ai jusqu'à quelle heure juste pour...
Tu as une demi-heure.
Une demi-heure, ouais, à partir de maintenant.
Ouais, ouais.
C'est ça qui me plaît. Et donc, on a un texte, comme vous l'avez vu, qui remet un petit peu en cause notre notion de justice. Parce que voilà, ce texte est censé nous dire, le texte et son ensemble, on va y revenir, le texte et son ensemble est censé nous dire que Dieu est juste. Or, est-ce que vous avez vu la justice de Dieu dans ce texte?
Pas tout de suite, hein.
Et c'est là où vous dites, est-ce qu'on a lu le bon texte? Et je vous assure qu'on a lu le bon texte. Normalement, notre notion de la justice est celle-ci, hein, la balance avec les yeux bandés, c'est-à-dire que quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est plutôt gentil, qui fait plutôt des bonnes œuvres, qui n'a pas trop transgressé la loi, et donc on va se dire que cette personne est innocente ou juste, et une personne qui est plutôt mauvaise et plutôt injuste, c'est-à-dire qu'elle a pas mal transgressé la loi, et donc on estime qu'elle est injuste. La plupart du temps, notre notion de justice, c'est ça. Ça va être un peu une notion un peu musulmane des choses, c'est-à-dire que les mauvaises actions sont plus lourdes que les bonnes quand on est injuste, et le contraire, quand on est juste. Et nous allons voir en fait si ça fonctionne dans notre texte, cette notion de la justice, d'avoir des œuvres bonnes supérieures aux œuvres mauvaises. Et en plus, je vais vous filer des petits conseils pour vous en sortir dans un texte complètement bizarre comme aujourd'hui. Comme ça, on va débroussailler. Mais avant de nous plonger dans le texte, est-ce que c'est... Oui, c'est cela. Nous allons... Vous voyez mal. Ah, il faut peut-être... Ah, désolé, parce que ouais, j'ai mis en gris, parce que c'était plus stylé, mais peut-être que le blanc était mieux.
C'est stylé,
mais illisible. Ah, il y a des effets.
Les éoliennes, c'est pour rappeler la maison.
Exactement, c'est pour rappeler chez moi. C'est d'un petit côté, voilà. C'est aussi pour dire que le texte est un peu perché quand même, il faut bien le dire. Ésaïe 26 est au cœur de ce qu'on appelle l'Apocalypse d'Ésaïe. Et donc, l'Apocalypse d'Ésaïe commence au chapitre 24 et finit au chapitre 27. C'est un texte absolument merveilleux, riche en images, comme en métaphores, c'est vous qui voyez, et qui nous montre en fait que l'apôtre Jean, quand il a écrit son Apocalypse à lui, il a beaucoup pompé sur l'Apocalypse d'Ésaïe, et aussi sur Daniel, et aussi sur Ézéchiel, et aussi sur d'autres personnes, mais pas mal sur Ésaïe. Et donc, voyons ce qui s'est passé avant notre texte, que vous connaissez maintenant. Au début du chapitre 24, Ésaïe nous parle de la dévastation de la terre entière. La dévastation de la terre entière, qui est habitée bien sûr par le péché. Et devant cette dévastation de la terre entière, nous avons une louange d'un reste du peuple qui célèbre Dieu pour sa justice. Voilà. Dieu a dévasté la terre entière, et donc Dieu est juste, et on le célèbre pour ça. On le célèbre pour sa justice, mais aussi on se désespère devant le mal qui est sur cette terre et qui perdure. Ensuite, nous avons une deuxième section qui est à cheval entre le chapitre 24 et le chapitre 25, où il y a un jugement de Dieu sur les puissants, les riches, et on a à nouveau un moment de louange pour Dieu qui est le refuge des faibles. Donc on a une opposition entre les riches, entre les puissants et les faibles. Les puissants sont méchants et les faibles sont gentils. Dieu est leur refuge. Et on a un banquet en Sion, à Jérusalem, pour fêter la fin de la mort et de la souffrance. D'un seul coup, voilà, le voile qui couvre l'humanité, c'est-à-dire la mort et la souffrance, sont enfin vaincus. C'est vraiment un apocalypse. Vous comprenez. Donc vous comprenez pourquoi ça ressemble beaucoup à l'Apocalypse de Jean. Et l'Apocalypse, c'est avant tout un genre littéraire qui est repris partout dans le monde ancien. Et donc on voit que ça correspond à ça. La mort et la souffrance sont terminées. Et enfin, on a au chapitre 25 les sauvés qui se réjouissent et les orgueilleux, dont Moab, qui sont humiliés. Voilà. Et donc à chaque fois, vous voyez, il y a une opposition souvent entre les puissants, les faibles, les sauvés, les orgueilleux, et après il y a une suite au chapitre 25 dont je ne me rappelle plus, parce que je ne l'ai pas noté. Je voulais en parler, mais je me suis dit qu'on aurait plus assez de temps. Donc, j'essaie de ne pas griller toutes mes cartouches. Donc, au chapitre 26 d'Ésaïe, il faut savoir à qui nous avons affaire. Et donc, quand vous avez un texte bizarre, dans Ésaïe, par exemple, ou dans l'Apocalypse, il faut essayer de voir, en fait, quel personnage vous avez. Et c'est un peu de l'observation de base. À qui nous avons affaire, et donc je vous ai concocté un petit tableau avec trois types de personnes, les justes, les méchants et Dieu. On fait simple, les justes, les méchants et Dieu. Et donc on va voir juste les occurrences qui correspondent aux justes, aux méchants et à Dieu. Donc voilà, il y a tout le tableau. Normalement, il y aurait pu y avoir un effet où ça commence de la gauche vers la droite, mais c'est pas grave. On va commencer par les justes. Ouais, c'est Google, hein, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est bien. Les justes. On va commencer par les justes. Donc vous faites semblant qu'il n'y ait pas les colonnes de droite. Les justes. Les justes ou le juste. J'ai fait des petites variations avec le pluriel. Le juste, il est fidèle et confiant. Au verset 2 et 4. Ce juste-là, il met sa foi en l'Éternel. Jésus. Ouais, c'est quoi ça ? Il dit Jésus, c'est très bien, c'est la bonne réponse, Jésus. Il est fidèle, il est confiant, et on voit qu'en fait, il est dans une ville où finalement, il est en sécurité. Il est en sécurité, donc ce juste, il entre dans cette ville parce qu'il est juste, et il peut avoir confiance en Dieu. Ensuite, on voit que les pauvres et les faibles, au verset 6, écrasent les grands. Donc on est dans la lignée de ce qui s'est passé avant. Les grands sont écrasés, comble de l'ironie, par des pauvres et par des faibles. C'est pas courant. Ensuite, versets 8 et 9, les justes espèrent en Dieu et le louent et ils le cherchent. Verset 16, ça continue, ils cherchent et ils crient à Dieu. Donc c'est toujours un peu la même chose, ils ont les regards tournés vers Dieu. Et donc vous remarquerez, hein, jusqu'ici, ils sont justes, mais on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Ils sont justes, mais ils n'ont rien fait pour être justes, hein, voilà, déjà ici. Mais au verset 18, nous avons le summum, ils sont justes, mais ils disent « nous n'avons produit aucun acte salutaire ». Donc, ils ne méritent même pas d'être justes. Autrement dit, ils ne méritent même pas d'être justes. Au verset 19, ils attendent de ressusciter. Alors, c'est une métaphore. Hein. Je ne sais pas si vous avez discuté de ce que voulait dire cette métaphore des versets 19. Je pense que ça parle de résurrection. La question, c'est est-ce que c'est une résurrection spirituelle ou une résurrection corporelle ? Le suspense est intense, nous verrons tout à l'heure. Mais en tout cas, ils attendent de ressusciter. Et c'est bizarre parce que, voilà, toujours, hein, ils sont justes, mais ils n'ont rien fait pour cela. Et enfin, au verset 20, ils se cachent en attendant l'action de Dieu. Là, j'ai remis singulier parce qu'il y a un chiasme avec le début où c'est aussi du singulier. Donc le juste se cache en attendant l'action de Dieu qui va anéantir les méchants. Donc voilà les justes qui nous sont présentés, ceux qui appartiennent à Dieu, ils ne méritent rien. Voilà. Ensuite, au milieu, nous avons les méchants. Les méchants, on ne dit pas grand-chose d'eux, mais on nous dit quand même deux, trois choses. Le méchant n'apprend rien de la grâce. À l'opposé du juste, hein, qui, lui, quand il est dans l'adversité, il soupire après Dieu, hein, voilà, il crie à Dieu. Il se rend compte qu'il y a un problème, donc il revient éventuellement à Dieu. Le méchant, lui, quand il est éprouvé, quand Dieu le met par terre, il ne revient pas à lui. Il n'apprend rien. Et au verset 10, toujours, il continue d'agir injustement. Donc l'injuste est injuste. Jusqu'ici, tout va bien. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, et il ne glorifie pas Dieu. Donc voilà, il a la tête dure. On pourrait appeler ça de l'orgueil. Et enfin, il est, au verset 14, il est définitivement mort. Ce qui est une opposition avec le verset 19, où les justes attendent de ressusciter de la poussière. On insiste bien au verset 14, ils sont définitivement morts, ils ne se relèveront pas. Sauf qu'au verset 21, ils vont devoir rendre des comptes quand même. Donc en fait, ils sont définitivement morts, mais ils vont devoir rendre des comptes à Dieu et mourir. Deuxième fois. Ce qui rappelle peut-être l'Apocalypse, d'ailleurs. Mais je teste vos connaissances de l'Apocalypse de Jean, où il y a une première mort et une seconde mort. Mais en tout cas, voilà le sort du méchant. Le sort du méchant, c'est celui-ci. Donc le méchant est très méchant, et il mérite de mourir. Mais le juste, en fait, n'est pas très juste, mais lui, en fait, il ressuscite. C'est pas très juste. Bon. Peut-être que la réponse est dans la colonne de droite. Dieu, au verset 1, il donne le salut. Au verset 3, il donne la paix. Verset 4 et 5, il est digne de confiance. Verset 7, il affermit le juste. Verset 10, il juge pédagogiquement. Donc, il met sa main, mais pour que les gens reviennent à lui. Verset 12, il accomplit des œuvres justes. Il accomplit les œuvres des justes. C'est ça qui est vraiment absolument merveilleux dans ce texte. Il accomplit les œuvres des justes. Verset 15, il augmente la nation, donc la nation des justes. Hein. Verset 21, il jugera les habitants de la terre. Et verset 27, 1, il jugera le fameux Léviathan. Donc vous voyez qu'au niveau de l'activité, c'est Dieu qui fait tout le boulot. Voilà, c'est Dieu qui fait tout le boulot. Les justes ne font rien pour être justes, et c'est Dieu en fait qui rend les justes justes. C'est Dieu qui sauve les justes, c'est Dieu qui répond aux cris des justes. Donc vous voyez qu'en fait c'est une justice un peu arbitraire. Arbitraire dans le sens où c'est Dieu qui décide finalement, qui est juste et qui n'est pas. Voilà, le suspense est total. Donc, ça aide quand même vachement à défricher le passage. Enfin, voilà, vous virez les métaphores, hop, vous les repérez comme ça en gros, et essayez de sélectionner en fait de qui on parle et qu'est-ce qu'on dit à propos de ces personnes-là. Et du coup, d'un seul coup, vous voyez clair. Enfin, à peu près. Mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi repérer d'autres trucs rigolos, c'est-à-dire, par exemple, ici, les références à l'ancienne alliance. J'ai mis un rétroviseur. Pour dire qu'en fait, on regarde derrière. C'est vachement bien fait. C'est une métaphore. Enfin, dans les versets 1 et 2, on nous parle d'une ville. On nous parle de Juda. Et on nous parle d'une ville qui doit ouvrir ses portes pour les justes. Là, en fait, on fait clairement référence à Jérusalem, qui est en Juda, qui est la ville où Dieu habite. C'est là où il y a le temple de Jérusalem. Et donc, Ésaïe utilise cette métaphore, enfin, ou même c'est carrément cette référence, pour dire que, voilà, finalement, voilà, il est en train de parler de Jérusalem, dans laquelle les justes habitent, et qui doit ouvrir ses portes. C'est tout à fait ironique, parce qu'à l'époque où Ésaïe dit cela, eh bien, il a les lèvres impures au milieu d'un peuple impur. Jérusalem n'est absolument pas habité par des justes, c'est habité par des idolâtres, et c'est plutôt une ville qui a tendance à fermer ses portes, parce que c'est une ville qui est attaquée par des gens, et notamment par Israël et les Syriens qui sont au nord et qui veulent forcer Juda à rentrer dans une coalition avec eux. C'est une longue histoire, on s'en fiche, mais en tout cas, ils sont très loin d'ouvrir leurs portes. Donc en fait, ça fait référence à Jérusalem, mais ça n'a pas l'air d'être Jérusalem. On verra tout à l'heure. Ensuite, on nous parle d'une nation juste qui révère Dieu, versets 3 et 4. Et là encore, on se dit, la nation juste qui révère Dieu, le plan de base, c'était les Hébreux. Ils reçoivent la loi de Dieu, ils ont tout ce qu'il faut pour connaître Dieu, savoir ce qu'il faut faire, ils ont un temple, ils ont des sacrifices, tout doit bien aller, et normalement, ils révèrent Dieu. Sauf que, je vous l'ai déjà dit, du temps d'Ésaïe, c'est pas ce qui se passe. C'est assez irrégulier. Il y a des rois qui sont pas trop mal en Juda, mais aussi des rois qui sont assez catastrophiques. Et donc, en fait, la nation juste qui révère Dieu, ça ressemble pas à l'époque d'Ésaïe. Ensuite, au verset 9, on a « Je te désire ».« Je te désire, Seigneur ». Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Le fait de désirer, de voir Dieu, le fait de désirer d'être avec Dieu toute sa vie, dans son temple, tout ça, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est des psaumes. Ça rappelle en fait des psaumes que David écrit, ou plein de poésie, où en fait David veut être avec Dieu tous les jours de sa vie. Non ? Une chose que je désire ardemment trioler. Voilà. D'autres, verset 13, d'autres seigneurs ont dominé sur nous. Petite métaphore, qui sont ces seigneurs ? Eh bien, il y a de grandes chances que ce soit des idoles. On pourrait dire, il y a d'autres seigneurs qui ont dominé sur nous, ça peut être le pharaon. Par exemple, il y a un sacré seigneur qui a dominé sur nous, qui s'appelle le pharaon. Ça peut être, surtout pharaon, voilà. Il y a le roi d'Assyrie qui a tendance à venir un petit peu dominer, mais il ne domine pas encore totalement à cette époque. Mais en fait, c'est plutôt en fait des idoles, d'autres dieux, d'autres baals. Baal, ça veut dire maître. Ça ressemble pas mal à seigneur quand même. Donc il se pourrait qu'en fait ce soit justement en fait une rétrospective qui dise qu'en fait le peuple a souvent sombré dans l'idolâtrie, s'est souvent tourné vers les baals. Et donc voilà la référence d'un peuple qui est idolâtre. Donc qui vient complètement contredire la nation juste qui entre dans la ville de Jérusalem. Le verset 15, tu as augmenté la nation. Je ne sais pas à quoi ça vous a fait penser, mais moi ça m'a vraiment fait penser au fait que la promesse à Abraham, c'était que le royaume à terme devait être un très grand royaume qui devait toucher même jusqu'à l'Euphrate, donc qui devait être vraiment très grand. Ce royaume, ses limites promises à Abraham, ont été atteintes par Salomon. Enfin, ont commencé à être atteintes par David, et après ça a été atteint à force de mariage et de politique par Salomon. Donc, ça ressemble à cela, et en fait, on pense assez vite en fait, à cela, à mon avis. Mais là, c'est Dieu qui fait augmenter la nation, et on va voir que c'est peut-être pas de ça dont on parle, mais en tout cas, je pense que ça fait référence à cela. Verset 18, on a les habitants du monde qui ne sont pas venus à la vie grâce à nous. Hein, voilà, c'est... Et ça rappelle en fait le projet initial de Dieu dans le Deutéronome, notamment. Le projet initial de Dieu avec les Hébreux et avec la loi, c'était que les Hébreux allaient construire une société absolument extraordinaire grâce à la loi de Dieu, une loi absolument juste, notamment envers l'étranger, la veuve et l'orphelin. Une société absolument paradisiaque dans laquelle la justice habite. Et normalement, tous les autres peuples autour devaient laisser tomber leur Baal et devaient adorer le seul vrai Dieu. C'était le plan de base. Et là, en fait, c'est intéressant. Là, les justes, enfin, les personnes qui s'expriment dans Ésaïe 26, sont en train de dire, eh bien, les habitants du monde ne sont pas venus à la vie grâce à nous. Alors vous voyez, les seigneurs ont dominé sur eux, et donc c'est bien pour ça. En fait, au lieu que ce soit les nations qui les imitent, ils ont imité les nations, c'est un constat d'échec. Ferme tes portes sur toi. Alors ça, c'est le truc le plus facile. Normalement, vous avez compris la référence, versets 20 et 21. Dites-moi que vous avez compris cette référence. Ferme tes portes sur toi et attends que je juge la terre. Je crois que c'est ça. Référence à... Comment ? Ouais, la sortie d'Égypte, la dixième plaie, la Pâque. Vous fermez vos portes, au préalable. Ah non, vous n'avez pas compris. Bon, c'est pas grave, je ne juge pas. Vous savez, désolé, il aurait dû dire égorger un agneau, badigeonner, puis fermer. Mais je pense que vraiment, le fait de fermer vos portes et laisser Dieu exercer son jugement sur la terre, ça ressemble quand même beaucoup en fait, à une augmentation de ce qui s'est passé en Égypte, où les Hébreux s'enfermaient chez eux, et puis le fléau passait. Et enfin, le Léviathan, c'est un personnage mythologique qui existe en fait, dans tout le Proche-Orient ancien, et qui est notamment présent chez Job. Et donc Job, qui est un des livres les plus vieux de l'Ancien Testament, donc en fait les gens connaissaient Job, donc comprennent le truc. Le Léviathan, en fait, qu'on traduit parfois par crocodile, mais c'est un crocodile qui a le seum quand même, qui a fait un peu de la muscu, quoi. Donc c'est plutôt une mauvaise image. Et en fait, ce Léviathan, si vous n'avez pas compris en fait dans Job, en fait, c'est quand même le serpent ancien. Donc là, le serpent ancien, vous commencez un petit peu à vous dire, tiens, on le connaît celui-là. Donc dans Genèse 3. Voilà, donc c'est le serpent ancien, le diable. Donc ça a l'air d'être une référence à cela. Donc ça, c'est le coup de projecteur. Donc là, vous avez quand même déjà un truc un peu riche au niveau de l'Ancienne Alliance. Et donc maintenant, ça nous dit déjà, avant d'aller dans les références à la Nouvelle Alliance, la justice selon la Bible. On commence un petit peu à avoir des éléments. Hein. Le premier élément, c'est que la justice selon la Bible, elle dépend des lois du législateur. Ça dépend d'un législateur qui est Dieu, qui dit en fait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et les justes, ce sont ceux qui obéissent à ces lois-là. Et ceux qui ne sont pas justes, ce sont ceux qui désobéissent. On l'a vu. Je ne reviens pas dessus. Mais le truc qui est vraiment bizarre, c'est que la justice selon la Bible, elle ne dépend pas de l'obéissance. Assez loin. Et ça, par contre, c'est troublant. Parce que du coup, ça vient contrecarrer nos images, notre vision de la justice. Vous voyez que les justes n'ont rien fait pour être justes. Vous voyez que les injustes ont tout fait pour être injustes. Et en fait, la frontière entre la justice et l'injustice est plutôt très très fine. Plutôt très très fine. Pourquoi est-elle très très fine? Parce que la justice dans la Bible est uniquement relationnelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est Dieu qui crée les conditions pour être juste. Et donc, les justes, s'ils sont justes, c'est parce qu'ils crient à l'Éternel. C'est parce qu'ils espèrent en l'Éternel. C'est parce qu'ils s'attendent à l'Éternel pour les relever. Et la seule manière d'être juste, c'est d'être en relation avec l'Éternel. C'est pourquoi ça dépend, c'est une justice quand même qui dépend quand même des lois du législateur. Parce que même si on foire, même si on ne réussit pas, on échoue à obéir à ces lois, à accomplir ces lois, le fait de désirer ardemment y obéir mais échouer et crier à l'Éternel parce qu'on échoue, c'est déjà la preuve qu'on appartient à l'Éternel parce qu'on veut lui obéir, on veut faire sa volonté. C'est ce qui fait que le roi David est un homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Il a chuté, il a fait des trucs extrêmement graves, mais à chaque fois, il revient à Dieu. Il dit « Contre toi seul, j'ai péché. » Et surtout, il ne se tourne jamais vers une idole. La justice de Dieu est uniquement relationnelle et on comprend beaucoup de choses, et surtout on se détend sur beaucoup de choses quand on comprend cette réalité, parce que parfois on se dit « Oh là là, Dieu il est cruel, comment est-ce qu'on peut se réjouir que Dieu juge les nations et que voilà, il terrasse tout le monde et que ce soit une mare de sang ?» Dans l'Apocalypse de Jean, en fait, le sang dépasse le mort des chevaux, ce qui est assez grand, parce qu'il est plus grand que moi presque, peut-être même totalement. On se dit « Ah là, comment est-ce qu'on peut se réjouir ?» En fait, on peut se réjouir parce qu'en fait, d'un seul coup, la réalité revient sur le devant de la scène. Et maintenant, en fait, il ne reste que la relation avec Dieu. On revient là-dessus tout à l'heure. Mais nous allons prendre les jumelles après avoir pris le rétroviseur. Référence à la Nouvelle Alliance. Je dis référence parce qu'en fait, Ésaïe ne fait pas exprès, mais il parle aussi du futur. Le salut de Dieu est un rempart. J'ai même pas mis les versets. Vous allez devoir deviner.
C'est
1 et 2, ouais, c'est pour ça. En fait, j'ai pris dans l'ordre aussi. Hein. Donc, c'est les premiers versets. Le salut de Dieu est un rempart. En fait, c'est pas Jérusalem qui est un rempart. C'est pas les remparts dans Jérusalem qui protègent. C'est le salut de Dieu qui protège. Et c'est la foi en Dieu qui produit la paix. C'est extrêmement, extrêmement Nouvelle Alliance comme langage. C'est extrêmement tendance. Et donc c'est beau parce que en fait on se rend compte que la sécurité n'est pas avec une grande armée, n'est pas avec des moyens matériels considérables, c'est même pas en obéissant à la loi, c'est en fondant son salut sur Dieu et en mettant sa foi en lui pour avoir une paix intérieure. La ville, une ville où entrent les justes, une ville parfaite. Une ville où en fait des gens parfaitement justes rentrent dans une ville parfaitement juste, une ville où on peut vraiment aller à la rencontre de Dieu sans sacrifice, sans rien, où en fait tout est parfait, où il n'y a plus de larmes, où il n'y a plus de souffrance. Ça vous rappelle quelque chose? Une ville qui descend du ciel, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et vous la lisez tous les jours, car c'est à la fin de vos Bibles, c'est dans l'Apocalypse. Mais en fait, c'est quand même les passages d'Apocalypse qu'on comprend le mieux, alors faut pas bouder son plaisir. Les pauvres, troisième point, les pauvres sont élevés et les riches sont abaissés. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans les Apocalypses, Et c'est quelque chose, en fait, bah, finalement, que Jésus va dire beaucoup.
Le cantique de Marie, elle
le
dit
cantique.
Ça.
Oh là là. Vous prenez dans l'évangile de Luc, tu m'as lancé, vous prenez dans l'évangile de Luc tous les passages qui sont vraiment dans Luc et qui parlent des pauvres et des faibles, en général. Et vous allez voir qu'en fait, Luc fait exprès, et donc le cantique de Marie est dedans, pour placer des trucs rien que chez lui, qui dit en fait, les pauvres, les faibles, eh bien c'est ceux-là qui sont glorifiés. Et les riches, et les puissants, c'est ceux qui sont rabaissés. Et la justice de Dieu, c'est ça, chez Luc. Mais en fait, Luc ne dit pas ça au hasard, c'est déjà comme ça, dans pas mal de textes des prophètes, où en fait il y a un renversement. Il y a le monde, c'est horrible parce que je ne peux pas empêcher de spoiler ce que je vais dire plus tard, mais il y a le monde A, enfin le monde B, pardon, qui est le moins un monde plein d'illusions, où il y a l'injustice. Et il y a un autre monde qui existe où les normes selon Dieu sont rétablies. Et vous avez vu, Jésus, dans les évangiles, alors il y a Marie bien sûr qui dit, quand elle est enceinte, les nations me diront bienheureuse car il a renversé les puissants de leur trône et il a fait je sais plus quoi.
Il a élevé les faibles.
Ou un truc comme ça, voilà. Et donc elle est très contente comme ça, mais en fait Jésus après va dire, bah, les derniers sont les premiers. Et les premiers, et bah, devinez quoi, parce qu'on est dernier. Et souvent, en fait, il y a un renversement, en fait. Et ça commence là. Donc, c'est encore très, très Nouvelle Alliance. C'est déclaration. Désirer le Seigneur plus que toute autre chose. David a commencé, mais le truc qui est génial dans la Nouvelle Alliance, c'est celui qui nous fait désirer le Seigneur Jésus plus que toute autre chose. Il s'appelle le Saint-Esprit. Alors, il était incognito dans l'Ancienne Alliance, mais il est pleinement apparu et puissant dans la Nouvelle Alliance. C'est lui qui nous fait désirer ardemment le Seigneur Jésus. Et ça, c'est génial parce que Ésaïe ne le sait pas encore, mais nous, on le sait maintenant, que eh bien, c'est Dieu qui nous fait désirer Dieu. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui met dans notre cœur ce désir de repentance et ensuite ce désir de servir le royaume. Toutes nos œuvres, cinquièmement, toutes nos œuvres, en effet, c'est toi qui les accomplis pour nous. Et donc là, nous savons, sous l'Ancienne Alliance, nous savons qu'en fait, tout ce que nous sommes incapables de faire pour nous sauver, Jésus l'a fait. Et là, vous dites, Alléluia Non, vous êtes un peu... vous en foutez de manger de ça. C'est quand même merveilleux quand même de se dire ça, en fait, ce qu'on est incapable de faire. Ce qui doit normalement nous mener à la mort, au juste jugement de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui accomplit ses œuvres pour nous. Ce qu'on était incapable de faire, il le fait. Et donc, voilà, les gens le disent dans cet apocalypse, et c'est ce qu'il va se faire plus tard. Ésaïe pouvait le dire par rapport au sacrifice, par exemple. Le sacrifice d'animaux pouvait être un début de piste par rapport à ça. Parce qu'en fait, Dieu donne les moyens aux pécheurs d'être pardonnés via les sacrifices. Mais il va pleinement le faire lui-même, en Jésus sur la croix. Tu as augmenté la nation, tu t'es glorifié, tu as reculé toutes les limites du pays, nous n'avons pas produit d'actes salutaires et les habitants du monde ne sont pas revenus à la vie. Cette phrase a été annulée en acte 2. Cette phrase a été annulée en acte 2, le jour de la Pentecôte, et tous les jours qui ont suivi depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, des gens de toutes langues, tout peuple, toute nation, ont été sauvés par l'action du Saint-Esprit qui a orienté tout le monde pour croire en Jésus. Donc, la nation a augmenté, oui, mais et Dieu a reculé toutes les limites du pays. Ça, il l'a fait en acte. Mais en plus, le nouvel Israël, le peuple de Dieu qui croit en Jésus, eh bien, a produit des actes salutaires sur la terre en parlant de Jésus. Et le monde est revenu à la vie grâce au Saint-Esprit. Il n'y a plus de frontières, et ça c'est merveilleux. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent depuis la résurrection de Jésus, eh bien, nous avons affaire à des ressuscités spirituels dans un premier temps. Si vous avez mis votre foi en Jésus, ce que j'espère, vous êtes des ressuscités spirituels. Vous avez droit à la première résurrection. Bienvenue, nous sommes dans la première résurrection. Si Jésus ne revient pas avant, eh bien, bonne nouvelle, nous aurons droit. Si Jésus ne revient pas avant notre mort, eh bien, nous aurons droit à la seconde résurrection. Zéro droit de résurrection. Et voilà. Et donc ça, nous allons vivre. Tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. La plupart de ceux, enfin tous ceux qui sont morts en Jésus à l'heure actuelle, se relèveront un jour. Bien sûr, on a de Pâques à Pâques, c'est-à-dire les versets 22 et 23, je crois, hein, nous décrivent la Pâque juive, où le fléau est passé sur le monde entier. Nous avons cette référence à la nouvelle Pâque, Jésus, la nouvelle Pâque, cet agneau qui a été immolé pour notre salut. Et enfin, le serpent vaincu par l'épée qui sort de la bouche, elle sort pas de la bouche dans Ésaïe, mais dans l'Apocalypse de Jean, elle sort de la bouche de Jésus. Eh bien, elle vient tuer le dragon, le serpent ancien, le Léviathan. Et c'est ça qui est merveilleux. Un jour, le serpent est déjà vaincu. Par Jésus depuis 2000 ans. Il a des chaînes, il a du mal à agir, à manipuler les nations. L'évangile peut se répandre, mais il bouge encore, et on voit qu'il bouge encore, ce serpent. Mais un jour, il sera définitivement vaincu. Et sous de nouveaux cieux et de nouvelles terres, ce sera terminé. Dernier, c'est une application, mais toute gentille. Emmanuel Macron a dit ça. C'est probablement pas lui qui a inventé cela. Mais en fait, il avait tort. Je pense que cette diapo est. Il n'y a pas de planète B. Je ne suis pas d'accord avec cela. C'est pas Macron. Non, je sais, Macron peut avoir tort parfois. Je pense qu'en fait, nous sommes déjà sur la planète B. Voilà. Il y a déjà une planète, A, où il y a une pleine communion entre Dieu et les hommes. Et cette planète A a été gâchée par Adam et Ève. Et donc là, nous habitons sur la planète B. Une planète qui est l'ombre de la planète A. Une planète où nous survivons. Et même quand nous mettons notre foi en Jésus, en fait, nous survivons. Nous vivons beaucoup mieux que le reste de l'humanité parce que nous sommes déjà ressuscités spirituellement et c'est vraiment bien. Mais n'empêche qu'on est englués sur cette terre où habitent le péché et le mal. Nous attendons la planète C. Nous n'attendons pas un monde meilleur où les humains vont enfin se donner la main. Grâce à une plus grande tolérance et où la Terre ira mieux parce que nous serons tous plus intelligents et plus sages et nous arrêterons d'émettre des gaz à effet de serre. Nous n'attendons pas cette planète-là n'arrivera pas. Nous le savons, car la capacité de l'homme de faire de la, enfin de d'être mauvais, je suis pas assez fatigué pour dire merde. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. En fait, nous sommes vraiment l'humanité est trop irrécupérable. Irrécupérable pour sauver la planète actuelle. Nous ne nous attendons pas non plus à être plus justes aux yeux de Dieu grâce à un meilleur comportement. Même si le Saint-Esprit travaille en nous pour nous amener vers la perfection, tout ça. Mais on n'attend pas, en fait, que ce soit notre comportement qui nous sauvera ou qui arrangera notre conscience. Nous sommes finalement aujourd'hui, et ce sont mes dernières phrases, entre le déjà de l'œuvre de Jésus et du Saint-Esprit, et le pas encore d'une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons le Seigneur Jésus. Voilà ce que nous attendons. Et c'est pour ça que j'ai voulu inciter tout à l'heure pour dire que le salut était relationnel. Nous attendons quelqu'un. Quelqu'un qui nous manque, même si nous ne l'avons jamais... peut-être que vous avez eu la chance qu'il vous apparaisse, moi, imaginez. Mais je dois vous avouer qu'il me manque beaucoup. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, en fait, le voir. Nous attendons le Seigneur Jésus. Nous attendons de le voir. Nous attendons de vivre avec lui. Nous attendons de régner avec lui sur... une nouvelle Terre sur une planète C. La version définitive. La version totalement épanouie, absolument parfaite. Alors, ne commettons pas la folie ne commettons pas la folle erreur de croire que ce monde est le nôtre. Ce monde n'est pas le nôtre. C'est très bien, vraiment encore plus développé dans l'Apocalypse de Jean. Nous désirons Jésus et son royaume. Nous vivons pour lui et pour l'avancement de son royaume. Ce royaume qui commence maintenant, mais qui sera pleinement effectif quand il reviendra. Et il sera pleinement effectif. Et c'est pour ça que nous travaillons pour son royaume, parce que à la fin, c'est la seule réalité qui subsistera. Voilà. Le seul truc qui subsistera, c'est ce qui aura trait à Jésus. C'est ce que je dis à ma femme quand elle fait le ménage. Je dis, le ménage, ça sert à rien quand tu es Tu crois que Jésus va dire, ah, c'est bien, t'as fait le ménage? Peut-être que oui. Donc il aura dit, ouais, t'as fait le ménage pour me glorifier, tout ça. Moi, je n'y crois pas, mais bon. Je ne fais pas ça pour glorifier. Jésus a fait ça pour ses névroses, mais ça me. Mais en tout cas.
Tout ça est enregistré, en
fait. Bah, c'est vrai. Ah Mélanie, j'étais. C'est pas vrai. Ah oui, c'est. Je viens de casser mon effet dramatique. La seule réalité qui subsistera sera cette réalité qui aura un rapport avec Jésus. Donc la justice de Dieu, pour revenir au départ, la justice de Dieu, c'est de détruire tout ce qui est mauvais, c'est de détruire tout ce qui est faux, parce que sans relation avec lui. Voilà la justice de Dieu. Ce qui n'a aucun rapport avec lui, ce qui ne veut pas avoir de rapport avec lui, est détruit. Parce qu'au final, ce qui doit subsister, c'est uniquement ce qui a un rapport avec lui. Il est l'unique source du bonheur. Il est l'unique définition de la réalité. Il est l'unique définition de la sainteté. Heureux ceux qui mettent leur confiance en lui. Heureux ceux qui meurent unis à lui. Heureux ceux qui meurent à cause de lui. Car ils recevront la couronne de justice. Amen.